RMC, 9h midi, les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les GG, les grandes gueules sur RMC, RMC Story, les grandes gueules, la première heure est passée, elle est déjà disponible sur notre site internet rmc.fr ou sur l'appli RMC sur votre smartphone, et c'est en podcast que vous pouvez la récupérer. Aujourd'hui dans les GG, nous sommes avec Kaouter Ben Mohamed, la présidente de l'association Marseille en colère. Nous sommes accompagnés de Christophe Demerson, le président de l'Union Nationale des Propriétaires Immobiliers. Nous sommes accompagnés de Charles Consigny, avocat. Justement, l'immobilier, parlons-en, c'est la crise, locataire, propriétaire, est-ce que c'est vraiment la grande galère? Allez, c'est parti, on va regarder les propositions du gouvernement et on vous attend au 32-16.
RMC, 3 jours pour le logement.
Tu peux courir aussi vite que tu peux, tu ne pourras t'arracher à la fin de ce millénaire. Locataire.
La chanson de Jean-Louis Aubert, et vous avez entendu la petite promo RMC. Effectivement, on est dans une opération 3 jours pour le logement sur RMC. Tout comprendre à la crise, puisque de plus en plus de Français n'arrivent pas à se loger. Alors, quelles mesures veut mettre en place le gouvernement? Donc, rendez-vous à la fois avec Apolline et avec les grandes gueules, avec des invités, des reportages, des chroniques, des débats autour de ce que certains commencent à appeler d'ailleurs une véritable bombe sociale et bombe sociétale.
Oui, alors c'est le ministre du Logement qui le dit, bombe sociale. J'adore toujours quand un ministre utilise ces termes, et on a toujours envie de lui dire, mais vous êtes en place, que faites-vous pour justement éviter cette bombe sociale, d'autant plus que la Macronie quand même est au pouvoir depuis 6 ans. Et on voit bien d'ailleurs que la priorité d'Emmanuel Macron, ce n'est pas l'accès à la propriété. D'ailleurs, il l'a acté, hein, puisque il laisse filer les taxes foncières qui explosent, et il enlève tous les dispositifs qui permettent justement d'accéder à la propriété. Par exemple, le dispositif Pinel va être supprimé. On va resserrer aussi le prêt à taux zéro. Par exemple, les maisons en œuvre individuelles ne seront plus concernées par ce dispositif. Alors, il y a quand même quelques mesures qui sont annoncées par Madame Borne. Ces mesures ont été dévoilées ce matin par RMC. Il y a rien d'exceptionnel, mais notre professionnel d'immobilier va nous le dire dans un instant. Et visiblement, tous les professionnels sont assez déçus. Simplement, le constat, il est clair. Le nombre de ménages en attente d'un logement social n'a jamais été aussi élevé en France. C'est la galère pour les primo-accédants pour obtenir un prêt aujourd'hui. Il y a de moins en moins de permis de construire. Les maires refusent de livrer désormais ces permis parce que ça entame la tranquillité finalement de la ville. On veut pas de nouveaux propriétaires ou de nouveaux locataires. Et puis aussi le coût des matériaux et du foncier qui augmente, si bien qu'un projet immobilier sur 5 est reporté ou abandonné. Bref, c'est un peu le marasme. Je ne sais pas si tu es d'accord avec ce tableau que je dresse un peu noir, hein, Christophe. Moi, et visiblement, le gouvernement n'est pas à la hauteur du rendez-vous.
Alors, je pense que le tableau n'est pas noir, il est exact. J'allais dire, malheureusement, il est exact, ton tableau. Et c'est vrai que si on regarde, c'est depuis 6 ans, tu parles de 6 ans, mais depuis 40 ans, d'une manière générale, déjà, on peut dire que le logement est malmené. Parce qu'en réalité, les gouvernements successifs voient plutôt une manne fiscale et une vache à lait chez les propriétaires, et puis c'est pas délocalisable. Une fois qu'on a dit ça, c'est vrai que depuis 6 ans, on allait dire qu'on est vraiment malmené, et les petits propriétaires en particulier sont malmenés. Et on va directement, je sais pas si c'est une bombe sociale, nous on a prévenu il y a longtemps, parce que l'UNPI, on est là pour défendre les propriétaires, ça fait 130 ans qu'on s'occupe de ça. Nous on est une association, on n'est pas des professionnels, on est des bénévoles, moi j'ai pas de salaire. Je suis bénévole, je prends sur mon temps, et on défend les propriétaires. Alors pourquoi c'est une bombe sociale qui s'annonce? Ça va être une bombe sociale pour les propriétaires occupants, et ça va être une bombe sociale pour les propriétaires bailleurs. Dans les deux cas, ça va être mauvais. Pourquoi? Et naturellement, ça va être mauvais aussi pour les locataires derrière.
Pourquoi?
Parce que dans tous les cas, il n'y a plus de rentabilité aujourd'hui. Et on sait, quand on va vers de la rentabilité négative, on sait que c'est la galère. Il n'y a qu'à regarder avec la loi de 48. Historiquement, on sait que c'était bien. Le législateur en 48, il s'est pas dit, bah tiens, on va faire chez les propriétaires ou non. Il s'était dit, on va essayer de faire quelque chose qui tient la route. Oui, mais on sait que quand c'est déséquilibré, qu'il y a trop de choses qui sont faites pour les propriétaires et pour les locataires, et qu'il n'y a plus de rentabilité, on sait qu'on va vers les soucis. Bon, ben là, on y va à grands pas vers les soucis. Et quand je dis à grands pas, c'est plus qu'à grands pas.
Donc
parce
que
qu'on y est déjà.
Ça ne sera plus rentable d'être.
Mais c'est déjà plus rentable. Quand on regarde l'explosion, tu l'as dit dans ta présentation, l'explosion des taxes foncières. Mais si on pense sur 10 ans, l'immobilier, il faut savoir, c'est le temps long. L'immobilier, c'est le temps long. Donc on prend même sur 10 ans, l'explosion des taxes foncières. 10 ans, c'est, les taxes foncières, c'est 3 fois, je dis bien, 3 fois l'inflation. et trois fois l'augmentation des loyers. Alors après, on peut nous dire les loyers explosent, etc. Les loyers sont encadrés dans beaucoup d'endroits, et ça, c'est encore un mauvais signal. C'est comme si aujourd'hui, on encadrait le pain un petit peu, si tu veux. Quand il y a eu l'histoire sur l'encadrement du pain, du prix du pain, quand on a supprimé ça, c'était un drame. On nous disait, les gens vont plus pouvoir manger, il n'y aura plus de pain.
On fiscalise de plus en plus les propriétaires, mais on les empêche d'augmenter leur loyer. Donc à un moment donné, tu dis,
mais
ça sera
tout,
plus rentable.
C'est qu'on les en... Mais oui, mais c'est déjà plus rentable. Dans plus de 50% du territoire, ce n'est déjà plus rentable. Regarde l'explosion, regarde ce qui se passe, regarde l'explosion des taxes. Mmh. Regarde aujourd'hui la rénovation énergétique. C'est un vrai sujet. La rénovation énergétique, c'est un vrai sujet. Les propriétaires s'en emparent. Nous, il y a longtemps qu'on l'avait dit, il y avait le DPE opposable, le diagnostic de performance énergétique. À la limite, au départ, c'est une bonne idée. Pourquoi pas qu'il y ait un outil fiable, etc. Nous, on a dit, OK, on y va, mais il faut que ça soit fait dans la concertation et dans la discussion. Tout le monde y va, OK. On y va, oui, mais le problème, c'est qu'on y va, on ne nous écoute plus après. Tout le monde dans son coin et on se retrouve après avec une nouvelle loi et toutes les règles sont changées.
Il faut expliquer qu'on va obliger les propriétaires à rénover leur bien.
Oui, non, mais là, oui, mais ça.
À marche forcée.
Oui, mais là, tu fais un peu le porte-parole du gouvernement quand tu dis ça. À marche forcée, oui. Mais ce qu'il faut voir, c'est que les règles du jeu ont changé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le DPE, il est beaucoup plus contraignant. C'est-à-dire que des gens qui ont fait des travaux, aujourd'hui, eh ben, ils galèrent. Pourquoi? Parce qu'ils ont attaqué les travaux avec l'ancien DPE.
Il faut en refaire finalement.
Et ils font le nouveau DPE, ils ont fait les travaux, ils perdent une note ou deux notes. Alors nous, dès le début, quand il y a eu la nouvelle loi climat et résilience, tout de suite, nous, notre rôle, c'est de prévenir les politiques. Moi, personnellement, j'ai appelé Emmanuel Abraham, je lui ai envoyé des textos.
Qu'est-ce qu'il vous répond?
Je lui ai dit, mais madame la ministre, je lui disais, mais attention, là, on part, on n'aura plus d'appartements, il n'y aura plus d'appartements à louer, on va fermer les appartements.
Qu'est-ce qu'il vous répond?
Oui, ben, on va voir. Oui, le problème, c'est qu'on voit, mais le calendrier, il tourne, on fait que devoir, mais il n'y a rien qui bouge. Et aujourd'hui, les appartements, ils se ferment.
Tu l'as rencontré, monsieur Klein, Olivier Klein?
Mais bien sûr que je le rencontre. Je le rencontre régulièrement. Et avec Klein, je lui dis la même chose, Olivier Klein, avec tout le respect que j'ai pour lui, je lui dis, attention, on va vers le marasme. Aujourd'hui, on nous parle, par exemple, tu parlais de la pénurie des matériaux, mais c'est un véritable drame. La pénurie des matériaux. Regarde, je te donne un exemple. Pierre, je viens de Clermont. Quand tu viens de Clermont, tu passes par Vichy, puis tu as le temps de regarder parce que le train est souvent en panne. Bon, ben, tu regarderas sur Google si ça t'intéresse. Sur Google Maps, tu regardes. La ville de Vichy, elle est encore à la moitié sous les bâches. Tu regarderas, c'est bleu. Pourquoi c'est bleu? Eh bien, parce qu'il y a eu un orage de grêle l'année dernière, il y a un an. Il y a un an, il n'y a toujours pas les tuiles. Et oui, pourquoi? Parce qu'une tuile, c'est de la terre et du gaz. Ben oui, mais aujourd'hui, ça coûte plus cher pour faire des tuiles que pour les vendre. Et les charpentiers, les couvreurs, tout le monde est à bloc. Et après, on nous dit, oui, mais ça doit se faire, coûte ce que coûte. Je regardais un petit peu ce qui a fuité ce matin.
Une grêle.
Non, mais ça n'a rien à voir avec les assurances. Il n'y a pas les matériaux.
Il n'y a pas les matériaux.
Si tu veux, nous, les professionnels, ce n'est pas Gérard Majac. Si tu veux les tuiles, tu ne les fabriques pas. Tu prends, si je te dis, par exemple, tiens, dans la rénovation énergétique, pour être plus simple, je vais te dire aujourd'hui, tu prends des convecteurs électriques, tu veux un convecteur de la dernière génération, tu galeras pour l'avoir, fais l'essai. Pourquoi? Ben parce qu'il manque des petites micro-puces qui viennent d'Asie. Et on sait qu'on était déjà impacté avant la guerre en Ukraine, on était déjà impacté sur les matériaux. Et sur la main-d'œuvre, on était déjà sur la tension. Quand j'ai alerté à l'époque et Emmanuel Vargon, excusez-moi les enfants, je fatigue. Quand j'ai interpellé Emmanuel Vargon et Olivier Klein aujourd'hui, je leur ai dit, mais attention, matériaux, d'accord, ok, il n'y en a pas, main d'œuvre, comment on fait? Mais on m'a dit, oui, mais on va former des apprentis. Et, d'accord, mais je veux bien qu'on forme des apprentis, mais un apprenti, il faut un petit moment pour le former. Le temps long, l'immobilier.
Cautère.
Moi, je ne partage pas tout ce que tu dis parce que je te pose une question et après je vais enclencher mon argumentaire. Tu trouves normal qu'on loue des appartements qui sont des passoires énergétiques aux locataires?
Alors là, je vais être hyper précis avec toi. Il n'y a pas de normal ou pas normal. Je vais te donner un exemple précis. Tu vas comprendre, c'est l'exemple que j'ai donné au sénateur il y a 10 jours. Quand tu dis passoire énergétique, déjà moi je dirais plutôt logement énergivore parce que j'aime pas stigmatiser les gens. Imagine le gosse, toi t'habites dans une passoire énergétique. Bon, tu lui dis pas t'habites dans un taudis, mais passons une fois qu'on a dit ça. Non, mais une fois qu'on a dit ça, tu prends le même logement, c'est la démonstration qui a été faite. Tu prends par un diagnostiqueur qui est à l'UNPI de Gap.
D'accord,
tu prends le même logement. Je vais te donner l'exemple. Je t'interromps pas, Kéouter, fais-moi plaisir. Tu prends le même logement s'il est à Gap ou s'il est à Nice, tu auras deux notes d'écart. Le propriétaire, c'est le même truc. Le problème, c'est pas le DPE lui-même, c'est parce que c'est le logiciel Il est fabriqué d'une telle manière, t'as l'altitude qui va rentrer en compte. Je te donne un autre exemple. Tiens, tu vas tout de suite comprendre.
Si je vais te donner un autre exemple.
Tu vas tout de suite comprendre. Regarde, tu vas tout de suite comprendre.
C'est en fait, c'est un logiciel qui fait ça pour
bien
tout le monde.
Bien sûr, c'est le logiciel qui fait ça pour tout le monde. Il va tenir compte de l'altitude, par exemple, si t'es à 400 mètres
ou
si
t'es à 300.
Mais non, je vais pas dans les extrêmes si tu veux.
Non.
Je vais pas, mais je viendrai à Marseille. Je t'ai promis que je viendrai. Toi, tu viendras à notre assemblée générale de l'UNP. Tu verras, c'est sympa. Regarde, je vais te donner l'exemple sur F2. Alors, non, mais je termine sur le F2 parce qu'elle m'a demandé si c'était normal. Je vais te donner l'exemple sur un F2. L'exemple qu'on avait pris pour les sénateurs, c'était un F2. Et il y avait des sénateurs de droite, de gauche, du centre, des écologistes, il y avait tout ce que tu veux. Avant, nous, on avait fait des rapports là-dessus précis, mais uniquement chiffrés, si tu veux, des bilans papier. Et ce diagnostiqueur, David Contier, que je souligne, a eu une idée. Il a dit, je vais donner un dossier photographique pour que les sénateurs voient un petit peu ce qui se passe. Donc, il a pris le c'était un F2 à Gap. Il a pris le F2 qui était en ruine, on va dire, c'était hyper mal isolé. Dernier étage avec un chien assis. Bon. Il a été refait au maximum de ce qu'on sait faire, de ce que la technologie sait faire aujourd'hui. Ça a été filmé, il y a les photos, etc. Alors, donnez-moi les notes, mesdames, messieurs. Il est sorti en quoi, le petit F2? Il est sorti en F, ça veut dire qu'il va bientôt être interdit du marché. Il est pratiquement déjà passoire énergétique. Pourquoi? Ben parce que dans le logiciel, il y a plein de choses qui vont pas. Voilà ma réponse.
Ma réponse en tant que personne qui a... D'abord, je suis née dans des bidonvilles, donc moi, le logement indigne, je l'ai pas découvert il y a 5 ans ni aujourd'hui. Je suis née dedans et il prolifère à Marseille. Et pas qu'à Marseille, d'ailleurs, on n'a pas d'exclusivité depuis 40 ans, depuis 50 ans. Ça, c'est la première chose. Et à l'époque, il n'y avait pas de notes, mais il y avait quand même l'indécence et l'indignité et ce que toi, tu appelles la passoire énergétique, enfin, que tu ne veux pas appeler la passoire énergétique. Moi, je l'appelle, je suis née dedans et je ne suis pas la seule. Moi, je t'invite à Marseille parce qu'aujourd'hui, je m'occupe de plus de 500 familles en 5 ans, toute seule, commune grande, avec mon association, sans rémunération, sans rien du tout. Et je vais faire des diagnostics par des experts. Ce n'est pas moi, je ne suis pas experte. Hein. Et je peux te garantir que je trouve complètement indécent, que l'État et que des associations comme la tienne ou des organisations qui s'occupent de l'immobilier en général ne s'attaquent pas elles-mêmes à ce que j'appelle moi et ce qui est appelé normalement comme des marchands de sommeil qui louent des appartements qui sont gangrénés à cause de la mauvaise isolation, qui sont gangrénés par des champignons, par de l'humidité, qui créent des maladies respiratoires aux enfants et aux personnes les plus vulnérables, les personnes âgées, etc., etc. Donc moi, quand tu dis que ça coûte cher, je l'entends bien, il n'y a aucun souci. Mais ce que moi, je constate à Marseille et à Paris, parce que je travaille à Marseille et à Paris sur des questions de logement, notamment avec le DAL à Paris, le droit au logement, c'est que les personnes n'ont plus les moyens de se loger aujourd'hui. Et qu'il y a 40 ans, dans un budget familial, c'était 30% du budget qui était consacré au logement. Et qu'aujourd'hui, c'est entre 70 et 80%. Et quand il te reste 20% pour vivre, c'est compliqué de vivre. Et quand bien même tu arrives à trouver, parce qu'il faut trouver, il faut des garants aujourd'hui. Les agences immobilières demandent deux fois, voire trois fois, ton salaire, le prix du loyer.
Non, là tu dis rien.
Une
agence immobilière. Moi, je suis pas un professionnel de l'immobilier.
C'est pas grave, tu vas me laisser terminer.
Non, mais un professionnel de l'immobilier, je ne demanderai jamais 3 mois de salaire.
Tu vas me laisser terminer.
Et puis tu corriges derrière.
Tu corrigeras si tu veux. Donc, moi, ce que je constate, c'est qu'aujourd'hui.
Elle dit qu'il faut gagner 3 fois le salaire.
3 fois le salaire, 2 à 3 fois le salaire. Il faut avoir un garant. Pas tout le monde a un garant. Pas tout le monde a de CDI. On est dans l'époque où quand même les gens vivent beaucoup avec ce qu'on appelle des agences d'intérim, etc., etc. Donc déjà accéder.
Ils font tous des faux pour louer les appartements.
Comment?
Les gens font tous des
faux. Mais bien sûr, et tout le monde est complice parce que tout le monde sait qu'aujourd'hui il y a plus personne qui est en CDI et qui gagne et il loue, d'accord?
Donc ça, c'est les effets pervers d'une trop grande protection du locataire.
Mais le locataire n'accède plus au logement, les gars. Donc moi, je veux bien que
parce que à force de vouloir
tu protèges le propriétaire. Excuse-moi,
à force de vouloir protéger le propriétaire s'est surprotégé et on est arrivé à un truc complètement absurde. Effectivement, il faut être fonctionnaire et pour pouvoir et quand tu es profession libérale, tu peux pas. Et je l'imagine que Charles peut témoigner, être locataire, parce que profession libérale, non. Ça fait peur aux propriétaires.
Non. Quand tu es profession libérale comme Charles, tu peux trouver un appartement. Quand tu es intérimaire, tu ne trouves pas d'appartement. Non, je suis désolée. Les avocats, les infirmières, non, tu parles des professions libérales. Moi, mes amis avocats et infirmières, ils n'ont pas du tout de problème, ni pour accéder à la propriété.
Ils ont bien la chance, parce qu'à Paris, c'est très compliqué.
Ni pour accéder à la propriété, ni pour être locataire. Sauf que moi, je te parle.
Mais ça, c'est les lois.
Je te parle de la
lois,
majorité du français.
Bonne conscience.
Tu as vu
les lois, bonne conscience pour protéger les locataires qui ont poussé les propriétaires à se surprotéger.
Toi ou lui, c'est merveilleux quand même. Donc après, tu donneras aussi ton argumentaire parce que vous me coupez. Après,
non,
je
c'est pas l'argumentaire. Je t'explique pourquoi aujourd'hui.
Tu n'as pas besoin de m'expliquer. C'est mon travail. Toi, tu es journaliste. Moi, je travaille dans le logement. Donc donc il n'y a pas de souci.
Mais justement, mais le logement, si tu veux être honnête, il faut préciser que ces lois ont créé des effets pervers, en fait.
Non,
mais si.
Ce qui a créé des effets pervers, c'est ce que vous appelez, vous, la capitalisation. Moi, je vois beaucoup de personnes autour de moi qui n'ont pas les moyens d'être propriétaires bailleurs. Et je parle bien des propriétaires bailleurs qui font un investissement locatif. Ils ont 2-3 sous, ils ont un capital, et ils se disent je vais mettre un locataire qui va payer mon crédit. Mais c'est pas comme ça que ça marche, parce que le bâti, d'abord, quand tu achètes, souvent les gens font pas de diagnostic, etc., etc. Donc ils se rendent compte que ça a bougé, qu'il y a de l'insalubrité, que les parties communes il faut entretenir. Donc les gens, limite, ils sont pas prêts à être propriétaires bailleurs, et ils ont pas la trésorerie nécessaire pour faire les travaux après dans les parties communes ou dans leur appartement lorsqu'il est défectueux. Et là, on a le drame de personnes, enfin de propriétaires qui payent plus leurs charges locatives, ce qui amène des syndics de copropriété qui soient compétents ou défectueux aussi à pas faire les travaux. Et petit à petit, tout ça se délabre, et ça donne aussi naissance à de l'indécence. Alors, il y a des propriétaires qui sont très honnêtes,
dans
mais
un
pas
instant,
tous. Je suis désolée.
Dans un instant, on en discute pas avec.
En tout cas, les gens n'arrivent plus à louer, ça c'est certain.
Avec Romain, qui va nous parler lui des villages et des villes du Gers, où il y a beaucoup de logements à rénover et à habiter, justement, vers chez lui. On aura Morgane aussi, qui est dans les Deux-Sèvres, couple de fonctionnaires, vierge de tout emprunt. Est-ce qu'elle galère pour arriver à acheter ou à louer? Elle nous racontera ça. Donc, locataire, propriétaire, logement aujourd'hui, c'est la grande galère. À tout de suite avec les GG.
RMC, 9h midi, les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Propriétaire, locataire, est-ce que c'est vraiment devenu la grande galère? Le gouvernement essaie de relancer le marché de l'immobilier, de la construction, de la location. On va en parler avec Romain qui est avec nous. Romain qui nous appelle du Gers. Bonjour Romain.
Bonjour au GG, à tous.
Bonjour.
Alors il y a du bien dans le Gers.
Ah mais bien sûr, dans le Gers, pendant une époque c'était très côtoyé par les Anglais qui sont venus nous envahir côté Gers et qui ont racheté toutes les vieilles bâtisses. Ouais. À la campagne, parce qu'il fallait quand même un certain coût pour les remettre d'aplomb. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'on constate quand même, aux alentours de chez moi, je suis en milieu rural, qu'il y a des bâtiments inoccupés et en plus qui se délabrent dans le temps et qui peuvent être facilement accessibles parce qu'ils n'ont pas des coûts spécialement élevés. Les taxes foncières ne sont pas excessivement chères non plus. Et il y a des aides, il y a quand même des aides du gouvernement pour rénover des anciens logements et vivre.
Mais est-ce qu'on peut venir vivre et travailler parce que vous parlez des Anglais, les Anglais c'était des résidences secondaires.
Oui, non, c'était les Anglais qui décidaient de quitter l'Angleterre et venir dans
De venir travailler là.
Ouais, mais c'était surtout des retraités en fait.
Ouais, c'est ça, des retraités. Mais est-ce que vous pouvez avoir des actifs? Parce que je veux bien, effectivement, c'est pas cher, etc. Mais c'est l'accès au boulot aussi qui importe.
Alors, en France, il y a plus d'actifs.
Visiblement, dans mon département, on arrive à louer plus facilement que à vendre des maisons.
D'accord. Ah ouais.
Il y a quand même une demande. Donc en fait, des maisons à louer. Mais la problématique qu'il y a, par exemple, moi, je me suis retrouvé, je roule pas sur l'or. Enfin, je veux dire, j'ai des revenus corrects. J'ai perdu ma maman quand j'étais jeune. Je me suis retrouvé à ma maison familiale. Après, avec ma compagne, qui est devenue ma femme, et mon ex-femme maintenant, nous avons fait bâtir une maison, un projet commun. Et je me suis retrouvé à louer cette maison. Je l'ai louée pendant 3 ans. Et pour des raisons où on ne me payait pas le loyer, j'ai eu 6 mois de retard de loyer que je n'ai jamais récupéré. J'ai été obligé de m'en défaire. Donc, si j'avais pas de mal à louer, j'ai mis du temps à la vendre. Mais je n'ai pas pu la conserver en deuxième bien locatif parce que j'avais des soucis de paiement de loyer. Et on ne parle pas d'agence, c'était vraiment du direct, il y avait une très bonne relationnelle. J'ai connu trois types de locataires et sur le dernier, ça s'est mal passé et ça m'a encouragé à ne pas garder la maison.
D'accord.
Et elle est restée sur le moment sur le marché alors qu'en location, j'avais de la demande. Vous voyez ce que je veux dire?
D'accord.
Et il y a d'autres, après, il y a l'autre cas où des propriétaires qui ont des biens qui ne veulent pas les vendre, ils préfèrent laisser leur maison comme ça, en état inhabité aussi, il y a ce phénomène-là, et qui ne veulent pas les vendre. Et là, il n'y a aucun moyen des maisons un peu anciennes, faites en pierre, où ils ont juste refait la toiture pour pas qu'elles dépérissent. Et ces maisons sont inhabitées alors qu'elles pourraient accueillir des familles, être rénovées.
À des prix intéressants, Romain, là, en ce moment, vers chez vous?
Il y a de tout comme prix.
C'est magnifique le Gers, en plus.
Oui, tout à fait. Mais
en plein air, en plein Gers.
C'est quoi les villes là-bas? C'est Auch?
Non.
Auch, c'est pas dans le Gers?
Non.
Si, c'est la préfecture Auch.
Merde,
c'est
voilà.
C'est la préfecture.
Alain, toujours très bon en géographie.
C'est quoi les autres villes du Gers?
Ah ben, il y a Condon, le festival des Bantas, il y a Big Feu d'Ansac, puis il y a le circuit de Nogaro aussi, et puis ah bon, après il y a toutes les villes périphériques.
Et c'est local quand même, hein, parce que
le problème dans le Gers, il y a Eric Brunet aussi, ça c'est un vrai souci.
Il y a Brunet qui est là-bas.
Tout à fait. Donc il y a une partie du Gers qui coûte assez cher, c'est celle qui est proche de la partie toulousaine, parce que...
Il y a de la sécheresse ?
Comment ?
Il y a de la sécheresse.
Mais est-ce qu'il y a comme le dit Romain, est-ce qu'il y a de bonnes affaires à faire justement dans des départements un peu plus ruraux?
Mais je vais te dire, dans tout, l'immobilier, c'est comme tout. Surtout quand il y a des crises, il y a des gagnants et des perdants. Donc il y a toujours des bonnes affaires.
Et qui sont les perdants en ce moment alors?
Les perdants aujourd'hui, on peut le dire, c'est les propriétaires qui ne sont pas conseillés, ça va être les grands perdants. Parce qu'aujourd'hui, l'immobilier, de toute façon, il a toujours fallu du conseil. Mais l'immobilier.
Et les grands gagnants, alors c'est qui?
Avant tout, du conseil.
Ça veut dire quoi? Pourquoi je ne comprends pas? Pourquoi les propriétaires non conseillés seraient les perdants?
Je vais te le dire pourquoi. Tout simplement, Charles, parce que je vais te dire pourquoi il faut du conseil. Non, pas que je mets sur les taxes. Non, pas spécialement sur les aides. C'est surtout parce que l'immobilier, je pense que si tu veux, pour bien t'en sortir, il faut être en mode projet. C'est-à-dire qu'il faut regarder comment tu vas structurer ton patrimoine, est-ce que tu vas faire des donations dès le départ, est-ce que tu vas démembrer ton bien, est-ce que tu vas faire ceci, est-ce que tu vas faire cela. Si tu veux, de faire un bon coup ponctuellement, c'est pas mal, mais c'est pas là que tu vas faire la différence sur une vie.
Qui seront les gagnants alors de cette crise?
Les gagnants, c'est les gens aujourd'hui qui vont avoir de l'opportunité, qui vont attendre que tout s'effondre, puisque là, on voit qu'aujourd'hui, de toute façon, tout est fait aujourd'hui pour que ça se casse la gueule. Il faut quand même qu'on soit clair. Il faut pas se mentir.
Tout est fait.
Regarde les signaux. Cherche-moi les signaux. Je regardais ce matin un petit peu ce qu'il y a de fuité dans la presse. Bon, on verra à 15h30 sur les annonces du CNR. Mais aujourd'hui, c'est quoi les signaux? C'est des taxes, c'est des contraintes, c'est des impôts supplémentaires, c'est de l'encadrement des loyers, c'est du permis de louer. On a eu un petit nuage, si tu veux. On a eu une petite éclaircie avec le député Kasbarian parce que devant la vraie réalité, les squatteurs, etc. Il y avait eu une jurisprudence qui avait beaucoup fait parler à l'époque, en septembre-octobre, au Conseil d'État. La locataire était restée dans l'appartement sans droit ni titre plusieurs années. Il y a une balustrade de fenêtre qui s'est cassée. Elle est tombée. Qu'est-ce qu'elle a fait, la locataire sans droit ni titre? C'était pas un squatteur, c'était une locataire sans droit ni titre. Elle a attaqué le bailleur. Défaut d'entretien. Mais bien sûr qu'elle a gagné. Mais elle a gagné non seulement, mais en plus, le bailleur, il a été condamné. Bon, il avait son appartement et sa maison pourrie. Ça, c'est une chose. Mais plus grave, il a été condamné, y compris aux frais médicaux. C'était, je me rappelle plus, je crois que c'était 70 ou 90 000. Donc, il faut quand même faire attention à ce qu'on regarde.
Oui, merci. C'est un cas sur 10 000. Mais le permis de louer, moi, je suis halluciné.
C'est pas un cas sur 10 000, Kauter.
Je suis halluciné que tu ne sois pas.
Viens avec moi dans les assemblées générales. Tu vas aller voir les petits propriétaires.
Moi, je vais dans les appartements.
Parce que personne peur. Personne ne pleure sur la veuve du Creusot,
tu sais,
ou la veuve de
Sarreguemines.
On n'est pas né. Moi, je suis pas avocat. Tiens, il est en face de toi, l'avocat.
Mais
tu vas me répondre.
Comment est-il possible que tu ne sois pas pour le permis de louer?
Parce que c'est une grosse connerie, le permis de louer. Je vais te le dire pourquoi. Parce que les gens attendent le permis de louer.
C'est quoi le permis de louer déjà?
Le permis de louer, c'est un diagnostic fait par un architecte, souvent de la CAF, d'accord? Par un architecte qui te dit si au niveau sanitaire, en fait, tout simplement. Il doit être loué ou pas.
Pourquoi tu dis que c'est une chaudrée?
Je vais te dire pourquoi, parce que c'est une contrainte supplémentaire. C'est une contrainte supplémentaire. Le gars qui a son parc, parce qu'on parle des marchands de sommeil, tout le monde est pour lutter contre les marchands de sommeil. Tu verras pas un type, pas une association qui verra ça. Mais nous, en réalité, mets-toi à la place du propriétaire. Il trouve un locataire. Il regarde. Ah oui, on va aller faire la démarche, on va aller retourner. On peut pas louer le bien tout de suite. Encore une contrainte.
C'est normal.
Mais je veux dire, c'est normal. Mais
quand tu achètes une voiture à l'occasion,
c'est tellement normal. C'est tellement normal que les appartements, si tu veux aujourd'hui, il faut regarder ce qui va se passer aujourd'hui. Tout le monde m'explique que tout est normal.
Mais attendez, je vais vous rendre compte de ce que vous dites.
Mais justement, on va écouter Morgane.
Tu prends de l'assurance vie. Tu auras 4%.
On va écouter Morgane.
Tous les propriétaires devraient être pour le permis de louer s'ils auraient à se reprocher.
Morgane, bonjour.
J'espère que tu ne seras pas ministre.
Alors, Morgane, expliquez-nous votre cas, alors, Morgane, dans les Deux-Sèvres.
Alors, bonjour. Je suis
déjà dans le Jura, donc j'ai que quelques kilomètres à faire.
Attention, allez-y.
Moi, mon mari est dans l'armée et donc du coup, on a passé 6 ans en location dans une région qui n'était pas pas la nôtre. Donc, on a été en location et puis il a été muté dans les Deux-Sèvres. Et donc, du coup, on s'est dit, c'était pas forcément le département où on voulait acheter non plus. Mais les prix des locations à quasiment 1 000 euros quand on a deux enfants, parce qu'il faut au moins 3 chambres, enfin voilà, c'est juste une catastrophe. Donc on s'est dit, bah, c'est pas grave, on va acheter. Et puis comme ça, ça nous fera un investissement pour les enfants. Sauf que deux fonctionnaires, hein, donc c'est ce que je disais, vierges de tout emprunt, on arrive à la banque et on peut pas emprunter plus de 220 000 euros frais de notaire compris. Bon bah aujourd'hui, avec le Covid et les gens qui se sont déplacés pas loin des gares, qui peuvent les amener à Paris avec le télétravail, à 220 000 euros frais de notaire compris, vous trouvez pas une maison habitable. Donc nous, on a eu la chance en fait que mon mari soit conducteur de travaux dans l'armée. Et que mon père soit retraité et qu'il travaille dans le bâtiment et qu'il soit électricien à la retraite. Donc en fait, on a fini par acheter une maison qui était inhabitée depuis 20 ans, avec tout à refaire en fait. Et du coup, on a commencé les travaux en août l'année dernière. Et en attendant, et ben on vit dans une maison qui est louée par quelqu'un qui travaille dans l'immobilier, mais dans laquelle il y a des moisissures, des fenêtres en simple vitrage. C'est pas du tout aux normes électriques, voilà. Mais on n'a pas le choix. Ah oui. Voilà, on n'a pas le choix. Donc, en attendant, et ben, pour s'en sortir.
Vous l'aurez quand votre maison alors ?
Normalement, cet été, normalement. Mais voilà, c'est toujours des sacrifices. Et puis quand on entend.
En même temps, vous aurez une maison refaite et vous aurez.
Oui, bien sûr, mais après.
Elle aura une valeur.
Bien sûr, après elle aura une valeur, mais c'est du sacrifice. C'est parce qu'on le refait nous-mêmes, parce que au prix des matériaux et de la main d'œuvre, très clairement, on n'avait pas les moyens du tout. On ne pouvait pas refaire.
Et pourquoi la banque vous refusait plus que les 220 000 euros une question de taux d'endettement.
Les taux d'endettement et les taux d'usure. Les fonctionnaires, on n'est pas non plus payés.
Parce que les taux d'usure. Ça, c'est quand même quelque chose aussi qu'on a mis en place, hein, une contrainte supplémentaire. Les taux d'endettement aussi. Est-ce qu'on pourrait pas être un peu plus souple là-dessus?
Il faut faire attention parce que le taux d'usure c'est pour protéger le propriétaire. Ouais. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a eu une remontée brutale. Donc il y a toujours un décalage, puisqu'avant c'était tous les 3 mois. Maintenant, c'est tous les mois.
Micro, Christophe, vas-y.
Donc maintenant, c'est tous les mois. Donc c'est mieux. C'est mieux, mais c'est vrai que c'est quand même compliqué, mais il faut protéger le propriétaire, l'accédant. Mais c'est pareil, je veux dire, normalement, ça, c'est de la souplesse, c'est de la négociation. Il faut travailler avec les banques, il faut travailler avec les courtiers pour regarder, pour que ça se passe bien, parce qu'il y a un moment que tout le monde alerte. Hein.
Morgane, on va écouter l'exemple d'Assil qui est avec nous. Bonjour Assil.
Oui, bonjour les grandes gueules.
Locataire, propriétaire, alors dites-nous, quel est le problème vous dans votre région, dans le Var, alors?
Alors ici, voilà, donc moi je suis... Donc, bonjour tout le monde, bonjour Kaouter, que j'aime beaucoup, voilà, et je pense qu'elle est dans mon sens. Alors moi je suis ferais d'intervenir, parce que je suis un peu contre, je crois que c'est Christophe, elle est contre les propos de Kaouter. Ça m'a fait un peu bondir, j'étais sur mon siège, voilà, véhicule. Donc il y a une grande difficulté. Moi j'étais pas d'accord avec lui quand il disait que les propriétaires ou les agences demandaient pas 2 à 3 fois le montant du salaire, ce qui n'est pas vrai. Nous on est en plein dans le cas, avec mon épouse, chaque propriétaire demande à peu près 2 à 3 fois le montant du salaire pour louer. Et si la difficulté à louer dans la région, Kaouter doit le savoir, est très très dure, les exigences ne sont pas les mêmes. Pour un petit studio, je pense, en Marseille et Toulon, il faut compter à peu près pas moins de 1500 euros, 1200 euros.
Mais par exemple, vous cherchez un logement en ce moment, Assil ?
Là, nous cherchons un logement avec mon épouse. Donc ça fait à peu près 7-8 mois qu'on est en recherche active. Et, voilà, étant artisan, je suis en reconversion professionnelle. J'ai dû changer de secteur, j'étais dans l'éducation nationale et je gagnais pas assez bien ma vie. J'ai préféré faire des reconversions pour espérer que j'aime un peu mieux. Donc autant vous dire que déjà, avec moins d'un an de bilan, c'est très très compliqué à pouvoir louer.
Votre épouse fait quel métier ?
Là, je suis dans la crise maintenant.
Non, votre épouse ?
Elle est au chômage. Voilà, elle est au chômage, elle fait une formation, elle va travailler.
Donc, il y a une crainte. Là, c'est simplement une crainte des propriétaires.
Oui, mais
quoi.
Tu te rends compte ? Lui, il travaille, il est en reconversion.
Moi, j'ai fait le choix de changer justement de secteur parce que j'étais assez pragmatique et dans la région, c'est impossible de trouver quelque chose, ne serait-ce pour avoir un 3 pièces à moins de 1200, 1300 euros. On a enlevé l'idée d'acheter, c'est impossible, mais avec un apport. Donc voilà. Donc du coup, moi, je suis un peu contre Christophe qui disait justement que c'était facile où les propriétaires demandaient pas 1 à 2 fois le montant, ils demandent 2 à 3 fois le montant.
Alors, Assil, après, pour te conseiller, ce que tu peux faire aussi, l'État a fait un truc qui était pas mal, hein, ça marche bien et ça va être, c'est peut-être une des rares bonnes nouvelles de ce qui va apparaître cet après-midi. C'est sur la garantie visale. La garantie visale, si tu veux. Je pense que vous pouvez y avoir droit. Et c'est peut-être un moyen d'avoir.
C'est une garantie.
Ouais, c'est comme une caution qui est prise en charge par l'État. Moi, à l'époque, quand j'avais été sur mon premier mandat, je m'étais rapproché d'Action Logement. Et c'est la première chose que j'avais signée avec le président d'Action Logement, parce que je pensais que les intermittents, les gens qui travaillent, les saisonniers, tout ça, ils galéraient beaucoup pour trouver des appartements. Et je m'étais dit, ça, c'est une bonne solution. Et donc, je m'étais rapproché d'Action Logement et on avait signé un partenariat, une convention. Et d'ailleurs, nous, on incite nos propriétaires, parce que être propriétaire, c'est être propriétaire engagé aussi dans la société. Et donc, nous, on disait, c'est une bonne idée. Ça s'améliore. La garantie visale s'est améliorée. C'est une bonne chose. Donc, nous, on est pour et on continue à y aller là-dessus sur la garantie visale. Et on encourage et on fait
petit
des
conseils. Cible à tout le monde quand même.
Petit conseil pour vous, Assil. Merci, Assil et Morgane, d'avoir terminé notre discussion. On verra au fil des jours, de toute façon, quelles sont les mesures annoncées par le gouvernement, comment ça réagit chez les professionnels du secteur. Dans un instant, ça se passe chez vous, ça se passe à Ajaccio avec le petit Kenzo, supporter de l'OM, agressé avec son père simplement parce qu'il était venu assister à un match, simplement parce qu'il avait le maillot de l'OM.
RMC,
midi,
les grandes gueules,
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les GG, les grandes gueules sur RMC, RMC Story, les grandes gueules avec aujourd'hui Kauter Ben Mohamed, président de l'association Marseille en colère, Christophe Demerson, président de l'Union nationale des propriétaires immobiliers, et Charles Consigny nous accompagne. Charles, avocat, qui est allé chercher
et son président café. Des retardataires.
Ouais, du club des retardardataires, mais avec café.
Toujours. C'est ton 25e café.
Faire bosser la régie pub, parce que normalement, il y a plus de publicité.
Oui.
Et j'ai plus de temps pour aller chercher un café qui est plus loin maintenant que le studio.
Tu as plus pris ton temps. Voilà.
À mon avis, peut-être que tu marches plus lentement.
Tu vieillis.
Oui, d'après un coup de vieux, Charles.
Du coup, je suis à l'aise dans mes...
Dans tes souliers.
Dans mes souliers.
Allez, on y va pour le « Ça se passe chez vous ».
RMC, les grandes gueules.
Ça se passe chez vous.
Avec Louis Gerbier, notre coproducteur. Bonjour Louis.
Salut Alain, salut à tous.
Ça se passe où aujourd'hui?
Alors les Pinsouti, nous partons en Corse à Ajaccio. Samedi soir, c'était la dernière journée de Ligue 1. Ajaccio recevait l'Olympique de Marseille, cher à Kauter. Les Corses ont gagné 1-0, mais malheureusement, on ne retient pas le match de cette soirée, mais l'agression d'un enfant de 8 ans. Le petit Kenzo, atteint d'un cancer du cerveau qui lui fait perdre la vue. Et ce minot, il a une passion, c'est l'OM. Alors, à ce match-là, il a voulu mettre son maillot pour l'entrée des joueurs. Et la suite de l'histoire fait froid dans le dos. Je vous propose d'écouter Kenzo et sa mère qui reviennent sur ces événements.
On a sorti les maillots pour mettre notre maillot. Et en contrebas, il y avait un groupe qui montait de jeunes. Et ils ont aperçu qu'on était en train de mettre notre maillot. Du coup, j'entends qu'ils parlent fils de pute. J'entends qu'ils parlent d'eux, quoi. Et je lui dis, mais vous savez de qui vous parlez, là? Vous parlez de mon fils et tout. C'est un enfant malade, il a le cancer, vous pouvez pas faire ça et tout. Et il m'a regardé dans les yeux, il m'a poussé sur le côté. Ils sont tous montés. Et juste au moment où papa portait Kenzo pour lui montrer justement que les joueurs de l'OM rentraient sur le terrain, ils ont vu Kenzo, ils l'ont montré.
Ils sont montés tout là-haut. Le maillot, ils ont pris, ils ont brûlé.
Et en passage, ils ont poussé Kenzo qui a tapé la tête sur la barre du siège et ont mis 2 coups de poing dans le visage à papa.
C'est dingue.
Alors voilà, après cette histoire, quelle réaction Kauter?
Ah, moi je suis hyper en colère. D'abord, je suis toujours hyper en colère quand ça se passe mal dans les stades, parce qu'encore une fois, c'est des modèles et des millions de minots qui assistent. Il y a des millions de minots qui sont devant leur téléviseur. Je trouve que c'est un très mauvais exemple, de manière générale.
Juste que le club a identifié 4 personnes, oui, parce qu'ils ont donné tout de suite les vidéos et les caméras de surveillance aux enquêteurs.
Le procureur sur BFM TV a précisé que 3 à 4 personnes étaient impliquées dans cette agression. On verra effectivement ce qu'il en est.
Moi, je trouve que c'est inadmissible qu'ils doivent être condamnés de manière ferme et qu'ils doivent être aussi condamnés à aller dans les hôpitaux où il y a des enfants qui ont le cancer, qui sont malades, et à aller s'occuper de ce type d'enfants.
Par la tête de ces gens-là.
Je sais pas, mais pour moi, d'abord, c'est pas des Corses. Parce que tu vois, en plus, tu vois que ça se passe mal entre Ajaccio et Marseille. Il y a limite un jumelage. En fait, la Corse et Marseille, c'est limite le même territoire.
C'est souvent très chaud entre.
Ouais, mais.
Pas au foot.
pas au foot. Fait, pas franchement, au foot, c'est pareil. La moitié d'Ajaccio.
Nice-Ajaccio, Nice-Marseille, Marseille-Ajaccio.
Sur ce que dit Cauter, moi, je suis assez d'accord sur l'histoire de dans la devant condamnation. Dans la condamnation, je serais quand même assez d'accord qu'il puisse aller visiter. Rendre service. Non, mais voir déjà ce qui se passe, même de rencontrer déjà, de passer par exemple une demi-journée ou une journée, pour que ça soit fait intelligemment ou plus. Non, mais déjà, rien que de voir. Moi, je peux parler d'une expérience personnelle. Nous, on avait fait, alors là, c'est le Rotary qui avait organisé quelque chose. Nous, on avait fait une association avec, moi, je suis au Lions Club, et c'est un peu pareil. Et on avait été rencontrer les enfants malades, docteur clown. Et quand tu vois les choses en vrai, que tu vois les gosses malades, les parents désemparés, t'as pas envie d'aller faire le cirque au bar.
Oui, mais c'est pas que ça. Il y a aussi un problème d'alcoolémie avant d'aller dans les matchs, pendant les matchs. Enfin, je veux dire, il faut pas être à jeun pour faire ça. Enfin, j'espère qu'ils étaient pas à jeun. Et quand bien même, c'est pas une excuse. Et voilà, en fait, tu m'as coupé. Du coup, j'ai perdu. En tout cas, voilà. Ces gens-là ne sont pas des Corses pour moi. Les Corses qu'on fréquente, oui. Les Corses qui sont à Marseille, c'est des hommes. On fera pas les minots de manière générale. Même si le petit avait.
On fera personne.
On fera personne, ouais. Mais en tout cas, pas un enfant. Et encore moins si un enfant malade, quand tu sais que les parents te disent l'état de santé, etc. Donc, pour moi, il doit y avoir des peines. Et. En termes de justice exemplaire, et aussi fréquenter les hôpitaux de manière régulière et pas occasionnelle pour venir en aide à ses enfants.
Charles.
Écoute, moi, je veux bien endosser cette fois la robe du procureur pour requérir à l'audience le mandat de dépôt pour ces messieurs, afin qu'ils comprennent un peu l'humanité la plus élémentaire. J'espère que. Ils seront condamnés très sévèrement. Je pense que la vidéosurveillance permettra en tout cas de les confondre s'ils essayaient de se soustraire à leurs responsabilités. Ils vont dire qu'ils ne savaient pas que ce jeune garçon était malade.
Alors ils disent que c'est pas le garçon, c'est le père qui paraît-il les narguer parce que le père avait le maillot.
C'est pas narguer. Voilà. Tu es dans un stade de foot, donc à un moment donné d'avoir.
C'est inexcusable.
Non mais on peut s'arrêter un instant là-dessus.
Enlevé par la
force. Non mais parce que bon, c'est des débiles. Le pauvre Kenzo, il a un cancer du cerveau. Eux, ils n'ont pas de cerveau parce que c'est complètement débile. Quand on aime le foot, forcément, il y a un adversaire dans le foot.
Évidemment.
Ils sont débiles. C'est-à-dire que il faut bien deux équipes pour faire un match de foot. Donc même sans prendre physiquement à quelqu'un uniquement parce que la personne a le maillot de l'équipe adverse, pardon, mais c'est profondément débile.
Ouais,
et on s'en fout de savoir si c'est des Corses ou des Marseillais. C'est débile.
Non, mais...
et le problème, c'est que dans le foot, trop de supporters sont débiles. C'est ça le problème du foot. C'est qu'on a quand même un taux de débilité dans ce sport qu'on aime tous, qui est vraiment inquiétant. Et il faut un peu se poser. Alors, c'est moi, bien, t'as les DG, etc., mais je pense qu'il faut aller plus loin. C'est-à-dire qu'il y a une vraie réflexion à avoir.
Mais moi, je pense que si j'en ai un, tu rentres dans un stade. Tu vois, à un moment donné. Non, mais voilà, exactement. Quand il n'y a pas d'exemplarité, quand les mecs reviennent toujours, qu'ils ne sont pas punis, qu'ils
n'ont
pas trois jours d'avertissement, une petite tape comme ça.
Interdit
tu rentres plus dans un stade. Si des choses fermes et exemplaires. À un moment donné, ça suffit de faire.
Mais on parle d'un enfant malade, on parle d'alcoolémie, mais en fait, on s'en fiche. Enfin, on ne touche pas un enfant de 8 ans.
Et il y a les insultes à la maman aussi. Et les insultes à la maman aussi. On écoute bien la maman, il y a quand même des insultes qui sont quand même.
Tout ça, parce que.
Il
n'y
a pas
d'ailleurs,
c'est
le maillot de l'équipe adverse.
Non, mais.
On va aller à Ajaccio.
Le racisme. Il faut parler de tout ça, en fait. Tout ça, ça a eu dans les stades. Et ça, pour moi, la fédération doit être exemplaire sur ça. Tu vois, quand tu insultes en termes de racisme, quand tu insultes, les homosexuels, et quand tu frappes de manière générale, et encore plus les enfants, tu ne mets plus à vie un pied dans un stade, point final.
Flo est avec nous. Flo, il nous appelle d'Ajaccio, justement. Ça se passe chez vous, ça se passe à Ajaccio aujourd'hui. Flo, supporter, vous étiez au match, Flo?
Bonjour, Flo.
Oui, oui.
Bonjour.
Ouais, bonjour.
Enlevez le haut-parleur, Flo, parce que sinon, ça va être compliqué pour parler.
Pas le haut-parleur.
Ah, il y a de l'écho alors.
Ah, il y a de l'écho, c'est bizarre, mais bon.
Vous êtes aux toilettes?
Oui, vous êtes. Ah oui, vous êtes aux toilettes? Non.
Peut-être.
Vous vous planquez, Flo?
Ouais,
alors allez-y,
peur,
racontez-nous.
J'ai peur de Twitter là en ce moment, c'est vrai.
Allez-y, racontez-nous.
Non, mais il y a rien. Enfin, c'est surtout une vérité à rétablir. D'ailleurs, j'ai la preuve que les médias vous interprétez surtout les choses à votre sauce pour vraiment faire du clic. Parce que déjà, il y a un truc qui est sûr, c'est que l'agression sur le petit, il n'y en a pas eu. Il n'y a pas eu de coup porté
non,
sur le gosse.
Non, il a été bousculé.
Ils lui ont retiré le maillot de force quand même. C'est une agression.
Non, c'est pas le maillot du gosse qui a été retiré, c'est le maillot du père.
Oui,
c'est le maillot du père. Voilà. Ah bon, je pensais que c'était le petit. Non, le gosse n'a eu aucune agression. Déjà, c'est ça qu'il faut rétablir.
Il a été poussé.
Parce que, non, il a été poussé dans un mouvement de foule peut-être.
Bah, donc, c'est une agression.
Non, il n'y a pas eu d'agression volontaire. C'est ça que je dis. Parce que la mère a déjà changé 3 fois de version. C'est juste ça qu'il faut rétablir.
Non, moi, je lis, ils ont arraché le maillot du
Laisse raconter Flo. Allez-y, Flo.
Maintenant, je pense qu'il faut aller plus loin que ça. Ça faisait 10 jours que le maire avait prévenu la préfecture qu'il y allait avoir des débordements. Qu'il y avait des messages interposés entre les groupes de supporters, que les Marseillais allaient venir pour foutre le bordel, que ça allait mal se passer pour n'importe quel supporter, même si, excusez-moi, le gosse n'a rien eu, mais le père qui n'a rien en haut de la tribune a montré le maillot et tout, juste au-dessus des supporters, même si c'est condamnable et tout ce qui s'est passé, il n'avait pas à le faire, surtout dans le contexte du match.
Attendez, on s'arrête un instant sur ce que vous venez de dire. C'est-à-dire que vous reprochez simplement au père d'avoir montré le maillot de l'OM. C'est lui qui a provoqué, donc il a. C'est ce que vous venez de dire.
Oui, mais laisse tout terminer.
Je dis juste que quand on a un gosse malade de 8 ans dans un contexte comme ça, on se tient un peu plus à carreau et on évite de faire le mariole, c'est tout. On sait que ça peut dégénérer.
Ça verse les choses.
Mais je vais vous parler en Corse.
Il y a du niveau. Hein.
Sur la vergogne de la Isolaï del Corsi.
On a vu ce qui s'est passé.
Vergogne.
On a vu ce qui s'est passé la veille en ville. Je dis juste qu'il aurait pu.
Le cerveau, il faut le connecter.
Il y avait des excuses. T'as pour décorer. Tout ce qui s'est passé condamnable. Ceux qui ont fauté vont être sanctionnés. Le club a pris des mesures. Voilà, c'est
réglé. On va voir s'ils seront sanctionnés.
Maintenant, il faut arrêter de faire des généralités. Il y a eu des gros incidents pendant 2 jours dans toute la ville des deux côtés. On ne parle que de ça. On dit
d'une agression. On parle de l'incident lui-même.
Ils ne sont pas montés pour arracher un maillot au petit. Le petit n'a pas eu de maillot arraché.
Moi, j'écris. Vous étiez
sur place, Florent.
Moi, je lis la déclaration.
Vous avez vu la scène?
La scène, je suis arrivé juste après, parce qu'on était bloqué par le cortège des Marseillais.
Vous
ne
l'avez pas vu.
C'est tout la faute des Marseillais.
Moi, je lis la déclaration de la mère du gosse. Oui, Ils ont poussé mon fils et sa tête à heurter la rambarde. Ils ont frappé mon mari au visage, ont arraché le maillot du petit et sont allés le brûler. Donc, excusez-moi. Moi, ce que je lis, c'est qu'ils ont arraché le maillot du gosse.
Merci, Flo. On verra comment ça se passe dans les heures à venir, puisqu'effectivement, il y a les vidéos qui ont été données à la police.
Non, mais je tremble d'écouter ce mec. Je tremble. Tu vois, autant j'ai dit, on ne fait pas de généralité, ce n'est pas tous les Corses, etc. Mais à un moment donné, que ce soit le père, le fils, ma grand-mère dans sa tombe, tu ne fais pas ça. Quand on va dans une équipe adverse, je suis désolée, moi j'ai fréquenté aussi les clubs de rugby, c'est normal d'avoir le maillot de ton. C'est juste normal de porter.
Sinon,
si je vais
voir
PSG Marseille, je vais pas mettre le
sinon, il n'y a pas de match.
Voilà, exactement.
C'est le but du jeu.
C'est le but du jeu. Donc, si tu considères que les mecs de l'OM doivent porter le truc d'Ajaccio, reste à la maison, bois-toi la bière à la maison, ils ne sortent pas de chez toi.
Allez, bien
que c'était interdit de le porter à ce match-là pour des raisons de sécurité. On en pense qu'on veut, mais.
Ça ne plaide pas en faveur du retour des supporters.
Non, clairement pas.
Tout ce qui se passe en ce moment,
c'est ça.
Allez, dans un instant, merci à Flo. On va suivre l'histoire. Ça se passe chez vous. Aujourd'hui, c'était l'incident au match Ajaccio-OM. Dans un instant, Eric Nolot avec nous. Eric Nolot qui devait siéger à la table des jurés du festival du livre de Cabourg. Il a été écarté. Pourquoi ? Parce qu'il a écrit une tribune anti-wokiste en Valeurs Actuelles.
Anti-Cabourg.
C'est l'air amusant parce que c'est un festival du film romantique. Alors ça, on est loin de l'amour. Là.
Allez,
la
tout de suite avec les GG, Eric Nolot avec nous.
RMC, jusqu'à midi.
Les grandes gueules.